franceinter.fr. La revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre.
Bonjour.
Et bonjour à tous. Quand on postule à un emploi, il arrive qu'on soit confronté à des questions embarrassantes. Mais quand on postule à un emploi chez Apple, la première entreprise du monde en termes de capitalisation boursière, les questions auxquelles on est confronté dépasse vraisemblablement tout ce qu'on peut imaginer, comme le révèle ce papier de Rue 89 qui dresse la liste des questions posées au cours des entretiens d'embauche de la marque à la pomme. Pouvez-vous expliquer à un enfant de 8 ans les fonctions d'un modem ? Que feriez-vous pour diminuer le prix de revient d'un stylo bille ? Quelle a été votre meilleure journée durant les 4 années qui viennent de s'écouler ? Parfois, ça vire même au problème de logique. Vous mettez un verre d'eau sur un tourne-disque et vous augmentez la vitesse. Qu'arrive-t-il en premier ? Le verre glisse ou l'eau éclabousse ? Pour finir, la question qui tue, êtes-vous quelqu'un d'intelligent ? Difficile de rétorquer par l'affirmative si l'on n'a pas su résoudre le problème précédent. Cependant, ce matin dans la presse, il est des interrogations qui paraissent encore plus complexes que celles posées chez Apple. Ainsi, à la une de Ouest-France, le crash de l'avion russe, un accident ou un attentat ?
Et pour le moment, personne n'est en mesure de donner la réponse.
Non, la seule certitude, c'est qu'il y a eu un crash dans lequel 224 personnes ont été tuées hier sur le sol égyptien. En attendant les résultats de l'enquête, Air France, comme la Lufthansa, ont décidé de ne plus survoler la zone du drame et les résultats de l'enquête, on ne les aura que lorsque les boîtes noires auront été analysées, sachant qu'alors qu'il est deux théories s'opposent, comme l'indique le titre de Ouest France, celle de l'accident et celle de l'attentat, panne ou terrorisme, interroge également le journal du dimanche, tandis que le Parisien évoque l'ombre de Daesh derrière le crash de fête. La revendication de la branche égyptienne du groupe État islamique laisse songer à un attentat. Le lieu de l'accident est d'ailleurs situé dans un bastion des terroristes. Mais la Russie, comme l'Égypte, réfute cette hypothèse, préférant celle de la défaillance mécanique. Selon les spécialistes militaires, l'avion aurait disparu des radars quand il était à 9000 mètres d'altitude. Or, les djihadistes ne disposent pas de missiles pouvant porter à une telle distance. Du reste, d'après les médias russes, l'équipage aurait fait appel au service technique de l'aéroport de Sharm el-Cheikh à plusieurs reprises au début de cette semaine en signalant des difficultés de démarrage du moteur. Le quotidien britannique The Independent rappelle d'ailleurs la tragique chronologie des crashs de la flotte russe. Ces 20 dernières années, elle a subi 20 accidents mortels coûtant la vie à plus de 1300 personnes. Mais dès lors, que penser de la revendication du groupe terroriste ? Un groupe qui, d'après un expert questionné par le JDD, n'est pas coutumier des revendications mensongères. Eh bien, cette revendication, sans doute, faut-il la prendre au sérieux, estime le Parisien, qui explique que s'il s'agissait en effet d'un attentat, le groupe État islamique aurait alors franchi une nouvelle étape dans sa stratégie d'hystérisation du complice syrien. En conséquence, la Russie pourrait décider de s'impliquer encore plus fort en envoyant des troupes au sol et peut-être avec l'aide des Iraniens, tout serait alors en place pour une escalade dangereuse, conclut le quotidien qui au passage fait état des conséquences à craindre pour le tourisme. En Égypte, ces derniers mois, plus d'un million de Français ont renoncé à partir pour les pays du Grand Maghreb. Mais avec la Russie, l'Égypte avait trouvé une nouvelle clientèle. Le crash d'hier devait briser cette dynamique. L'ombre du groupe État islamique continue de planer également sur le double attentat qui s'est produit à Ankara il y a maintenant 3 semaines.
Oui, sauf que cette fois, le groupe ne l'a pas revendiqué.
Mais le président Erdogan le lui a attribué. Le président turc, qui joue son avenir ce dimanche, des élections anticipées 5 mois après avoir manqué la majorité absolue, toute la presse décrit un pays qui a désormais basculé dans une situation quasi insurrectionnelle, notamment à cause du conflit ravivé avec le parti d'opposition kurde. Le Monde prévient aujourd'hui que les Kurdes sont prêts à la guerre contre Erdogan. Confirmation dans le JDD qui évoque la peur de la guerre au fond des urnes.
Le journal du dimanche, qui offre par ailleurs ce titre étonnant à sa une, en marge de l'affaire Air Cocaïne, la juge fait surveiller les téléphones de Sarkozy.
Titre accrocheur, titre intrigant. Pourquoi donc le nom de l'ex-chef de l'État apparaît-il dans cette affaire ? qui a fait les gros titres de la presse cette semaine. Est-il lié de près ou de loin à la fuite rocambolesque des deux pilotes condamnés à 20 ans de prison en République dominicaine? Réponse, non, absolument pas. Dès lors, est-il lié au trafic de drogue dont sont accusés les 10 pilotes depuis 2 ans? Là encore, réponse non, absolument pas. Mais c'est bien cette seconde question qui a, semble-t-il, motivé les investigations menées par la juge marseillaise en charge du dossier. Selon les informations de Laurent Valdiguier, cette dernière, la juge, l'an dernier, a demandé aux policiers de la brigade financière la géolocalisation de 2 téléphones portables de Nicolas Sarkozy pour les mois de mars et avril 2013. Pourquoi ces mois-là? Parce que la découverte des 700 kilos de cocaïne a eu lieu à Punta Cana le 19 mars 2013. Et parce que l'avion dans lequel la drogue a été retrouvée, un Falcon 50 appartenant au lunetier Alain Afflelou, cet avion avait été réservé pour un vol Paris-Bordeaux 2 jours plus tard, réservé pour le compte de Nicolas Sarkozy. La juge voulait donc savoir si celui qui s'était alors retiré de la vie politique avait ou pas des liens avec cette affaire qui a pris le nom d'Air Caraïbes et dans le plus grand secret. Elle a par ailleurs exiger des fadettes des 2 téléphones de l'ancien président, et ce, sur une période d'un an, toute la facturation avec les numéros entrants comme les numéros sortants. Et tout cela pour quel résultat? Néant. Les policiers n'ont rien trouvé du tout. Aucune implication de Nicolas Sarkozy dans le trafic de cocaïne. Tout juste ont-ils relevé que celui-ci appelait régulièrement 6 numéros de téléphone portable, en l'occurrence celui de sa femme, celui de sa belle-sœur, celui de son attaché de presse, celui de son garde du corps, celui de l'associé de son cabinet d'avocat et celui d'Arthur, l'animateur télé. En clair, si l'on résume, l'enquête du JDD révèle qu'une juge a enquêté sur Nicolas Sarkozy, mais que l'enquête n'a rien révélé, mis à part qu'il appelle sa femme, sa belle-sœur et Arthur, l'animateur télé. On imagine toutefois qu'en découvrant ce matin ce volet de l'affaire, les amis politiques du chef de l'opposition ne manqueront pas de faire savoir que l'on a là la preuve d'une justice qui ne cesse de le persécuter. Et qui aura le prochain Goncourt, Patricia? Là également, c'est une question qui pourrait figurer dans les entretiens d'embauche chez Apple. Le prix sera remis mardi, ils ne sont plus que 4 en lice. Et pour l'occasion, l'Obs s'est amusé à faire le profil type du lauréat des prix littéraires Lisez. C'est assez réjouissant.
On l'a fait tout à l'heure au bureau avec Pierre Veil, c'est vrai.
Alors,
c'est
vous avez donc découvert que les lauréats étaient davantage des hommes. Vous avez
ou des
donc
femmes.
Les lauréats sont plus souvent des hommes que des femmes.
Oui, il y a les lauréates, alors à ce moment-là.
Alors, il y a plus de lauréats que de lauréates.
Oui.
Il y a également plus de héros masculins que de héroïnes. Ça vous va, ça?
Oui, il y a plus de héros que d'héroïnes.
Oui, le genre des personnages principaux, l'Obs a étudié. Oui, plutôt
d'accord.
Des héros. Ils ont relevé 76 hommes, 43 femmes. Et que font-ils, ces héros? Eh bien, majoritairement, ce sont des artistes.
Oui.
Et ensuite, ce sont des militaires.
Ça, c'est pour les hommes.
Et ensuite, ce sont des commerçants. Ensuite, ce sont des pêcheurs, des agriculteurs, des employés. Les policiers, les retraités n'intéressent visiblement pas les écrivains primés. Ils arrivent en toute dernière position. Le Goncourt, on aura donc le résultat mardi prochain. Mais pour l'heure, qu'est-ce qui fonctionne en librairie?
Alors, c'est quoi?
Les livres sur l'intestin.
Ah oui, le charme du scandale. Alors, c'est formidable.
Oui, alors Télérama en fait
c'est
un petit papier.
Un livre réjouissant.
Le livre est réjouissant. Visiblement, ça n'est pas le seul. Il y a plusieurs livres qui s'intéressent à l'intestin, jadis mal aimé. Cet organe fait depuis quelques mois souffler un puissant vent éditorial, nous explique Télérama, qui
oula,
conclut...
Je le sens mal, ça.
Télérama conclut, je pète, donc je suis, l'intestin, notre second cerveau et le siège d'un nouveau cogito, je pète, donc je suis, j'avoue que je ne pensais pas lire un jour une telle phrase dans les colonnes de Télérama.
Eh ben, ça va être facile d'enchaîner, je vous remercie Frédéric Pommier.
Bonne journée.
Voulez-vous que je vous dise, c'est Didier Blonde qui sera dans quelques minutes mon invité pour un livre aussi.